Je m'occupe d'altérité et de Méditerranée surtout depuis très longtemps. Peu de monde savent qu'en 1983, donc ça fait une éternité, j'ai fondé avec le président de mon université de l'époque, qui hélas vient de mourir, la communauté des universités de la Méditerranée, qui a eu un rôle énorme pendant 20 ans, 20 ans de rassemblement des différentes universités. Normalement, on avait Israël, la Palestine, la Libye, le Maroc, l'un à côté de l'autre, durant les réunions, donc ce qui signifie que c'est possible. Le titre qui a été présenté au programme, c'est L'autre, c'est moi, de Giovanni Dottoli. Donc, je devrais parler surtout de ce livre. L'autre, c'est moi. J'ai fait trois livres de poèmes sur l'autre. L'autre, c'est moi. Je suis Orient, parce que nous sommes tous Orient. Et l'autre, mon frère. Donc, c'est un sujet qui est dans mon cœur, à tel point que je viens de publier aussi un livre de notre ami, dans cette collection, Une autre conception de l'autre. Vous voyez, ça continue. C'est pour ça qu'en effet, j'ai intitulé mon texte Le chemin de l'autre. Donc, je parlerai aussi poésie. Mais il faut poser la question, qui est à mon avis la grande question du XXIe siècle, des temps tragiques, pour répéter le titre du colloque que nous vivons. J'ai divisé mon intervention en plusieurs points. Migration et Nantimonde, le vrai. Puis autre, moi, identité. Poésie, poète, autre. Mon autre en poésie. Les livres que vous avez vus. Quelques mots de conclusion. Et enfin, un hommage au père d'Anne Schneider, Pierre Schneider, grand professeur de latin, de grec et, pour notre cas, surtout grand poète. Alors, premier point, le point de la migration comme un antimonde qui est le vrai monde. L'homme, nous, on est par nature migration. Nous sommes tous une conscience errante, ce qui fait que nous devons poser le lien entre l'écart et l'antre. Il n'y a pas d'écart sans antre, il n'y a pas d'antre sans écart. Nous sommes tous antre, nous sommes tous écart, et les deux doivent dialoguer. Toi et moi, moi et toi. Je disais à une amie italienne que je viens de connaître que dès que je connais quelqu'un, je le tutoie immédiatement, même si c'est le roi. Et l'autre reste un peu comme ça. Bah, qu'est-ce qu'il veut, ce monsieur? Qui est-il? Pourquoi? Bah, hein. Pour moi, c'est fondamental. C'est Levinas qui le dit, la question du tu, qui est l'essence du dialogue entre les hommes. Plotin, donc, il y a très longtemps, écrit dans les Énéades, supprime l'altérité, ce sera l'un indistinct et le silence. Donc la force du monde, c'est l'altérité, pas la coïncidence. Ainsi, la différence est intégration, nécessité d'être ensemble, logique d'intégration, l'écart ouvre de l'autre. Bon, vous connaissez la célèbre expression de mon grand poète, je dis mon grand poète parce que j'ai fait quatre livres sur lui, Rimbaud, L'autre, sur l'autre, Georges Braque, personne ne parle de Braque comme homme de l'altérité, hein, tout le monde le voit comme grand poète et poète des oiseaux. Il dit dans Le jour et la nuit, le commun n'est pas le semblable, ce qui est la force de l'amour. Deux personnes qui sont pareilles, nous sommes, ne s'aimeront jamais. C'est comme si j'aimais moi-même. C'est moi-même. Alors, l'autre, c'est le logos et jamais le mutos. Il faut réfléchir sur le fait que le mot mot dérive de mythos, dérive du silence, et pas de la parole. Ça devient parole après. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais il faut rester dans les 30 minutes. L'essentiel, c'est de comprendre et de savoir que dans la migration, il y a cette conscience de l'errance qui appartient à l'être humain. Nous pensons toujours que l'errance est la Méditerranée. Non, l'errance fait partie de l'être humain dans le monde entier, partout. Il est question toujours de nos problèmes et il faut regarder la planète dans sa totalité. Je cite Lévi-Strauss. Vous savez tout ce qu'il sait. La tolérance n'est pas une position contemplative, dispensant les indulgences à ce qui fut ou à ce qui est. C'est une attitude dynamique qui consiste à prévoir, à comprendre et à promouvoir ce qui veut être. Donc la tolérance, c'est le contraire du silence et du non-dialogue. Sophocle, étant donné que nous sommes en Méditerranée, Antigone dit « Je suis de ceux qui aiment, non de ceux qui haïssent. » Et Sophocle vient avant les chrétiens. Le Nouveau Testament, vous savez tous le célèbre passage de Saint Matthieu, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mais rarement on cite Shakespeare, qui, d'après quelques recherches, serait italien et pas anglais. Il viendrait de Messine et il s'appellerait Giovanni Lanza. Mais c'est un problème encore à résoudre. De toute façon, l'Italie est très présente chez lui. Donc, quelques raisons est possible. Eh bien, dans les poèmes « Peine d'amour perdu », il écrit « La charité est la loi suprême. » Et qui peut séparer l'amour de la charité, ce qui reprend le Nouveau Testament, la première épître de Paul aux Corinthiens, où il y a une très longue éloge de la charité comme patience, bonté, amour, ouverture. Levinas répète un peu la même chose, sans jamais citer saint Paul, sur le rôle du « tu » par rapport au célèbre mot grec « connais-toi toi-même », donc « connaître la vie ». Je vous lis quelques mots de Levinas à propos du « tu ». « Dire-tu, c'est le fait premier du dire. Tout dire, en effet, est discours direct ou partie d'un discours direct. Le dire est cette rectitude de moi à toi, cette droiture du face-à-face, droiture par excellence de la rencontre. Donc, l'altérité est par nature, surtout, fraternité. Passion de l'autre, signifiance du tu et du moi. Donc, proximité et philosophie du dialogue. La réciprocité est au centre du rapport avec l'autre. La relation, c'est l'acte du tu. Pour l'autre, est gratuite et donc sens de la justice. Et là, il faudrait parler du rôle du visage. Merci. Du visage comme lieu de l'autre. Parce que je peux parler en regardant derrière. Je regarde l'autre. Je regarde le visage de l'autre qui dit tout, qui a son histoire, qui est le symbole par nature de l'altérité. Mais la liberté est liberté de l'autre, avec sa pleine reconnaissance. En général, on parle de liberté comme de ma liberté. Non. Avant, il y a celle de l'autre, et puis il y a aussi la mienne dans une intercorporéité des deux corps. Vous voyez, j'y fais vite. Julia Kristeva, tout le monde sait qui c'est, vous savez qu'elle n'est pas française, même quelqu'un pense qu'elle est française. Elle est bulgare, elle vient d'un autre monde, exilée en France pour des raisons politiques. Elle venait des mondes communistes que tout le monde a oublié, mais c'était avant-hier. Eh bien, dans ce livre, Y a-t-il des étrangers heureux ? Elle dit des choses très intéressantes. Elle parle de l'adversaire immédiat à éliminer pour pacifier la communauté nationale. C'est ce que l'on vit tous les jours, surtout en Italie, où des masses arrivent à tout instant. Même maintenant, il y a des bateaux qui débarquent. On ne sait pas où, et on n'en parle pas, parce qu'on parle seulement des bateaux officiels, etc. Mais il y a tellement de bateaux qui arrivent. Et Kristeva dit, l'étranger est ce symptôme, et c'est un symptôme, c'est vrai, politique, ethnique, sexuel, culturel, qui rend précisément le nous problématique, peut-être impossible, car l'étranger commence lorsque surgit la conscience de ma différence. Et j'aurais dû parler poésie, surtout donc, après cette introduction sur la question de l'autre et de la migration et sur la signification de cela. Venons à la poésie qui est devenue mon pain et mon rêve, dans le sens que tous les jours, j'écris des poèmes. Les latins disaient « Nulla dies sine linea », aucun jour sans une ligne d'écriture, et j'essaye de pratiquer tout cela en vrai latin. Et la poésie, donc, fait partie de cette quotidienneté de la vie. Pourquoi ? Parce que la vie n'existe pas sans une direction. Le poète habite parce qu'il est avec. Il n'y a jamais de poète seul. Même si dans la littérature, on étudie la solitude, les romantiques, non, c'est une apparence, c'est un paraître. La réalité, un Renard, Rimbaud, qui dit « je » est un autre. Et il faut réfléchir énormément sur cette expression prononcée par un garçon qui avait 16-17 ans, qui avait compris d'une façon prophétique que mon « je » existe s'il y a un autre. Et moi-même, je suis un autre, ce qui comporte toute une série de questions concernant l'acte de traduire, mais ce n'est pas le sujet du colloque, mais la traduction, c'est le passage de l'autre à l'autre. Donc, toujours. Nous, moi, je suis en train de vous parler, qu'est-ce que je fais ? Je vous traduis ma pensée. Mon acte actuel est une traduction. Donc, toute la vie humaine est une traduction continue, dans le sens que c'est une communication. Mais revenons à la poésie. La parole de la poésie est surtout langage de la communication. Dans tout poème, le rôle du pronom personnel est capital. Bon, il y en a qui disent « je ». Dans mes poèmes, à 80%, je dis « je ». Mais il y en a d'autres qui disent « tu, toi ». Et souvent, je parle avec un « toi ». Tout le monde me dit « mais qui est ce toi ?» Eh bien, c'est tout le monde, c'est le monde entier. C'est mon amour secret. Moi, toi, lui, elle, lui, nous, vous, il, elle, eux. C'est le monde entier dans l'espace de l'autre qui est une pleine opération langagière. Le poète est donc un entre-deux. Le texte poétique, par nature, déchiffre et donne. Il est présence même quand il est exil. Il représente l'être-dialogue. Jean-Marie Lemaire dit « Le poème est une poignée de main. Je serre la main à quelqu'un quand j'écris un poème. » André Chédide dit « La poésie est l'acte de voir plus haut que le mur, au-delà du mur. » Le plus grand poème italien, « L'infinite » de Leopardi, c'est quoi ? Une vision au-delà du mur. Et là, au-delà du mur, qui en ce cas c'est la haie, mais c'est un mur quand même, qu'est-ce qu'il voit ? L'infini. Donc le poète voit toujours l'infini au-delà de l'apocalypse, au-delà des murs quelconques que les hommes érigent, hélas, trop souvent, surtout à notre époque. Alors la poésie dira l'origine, la nature, la pauvreté, la parole. L'autre moderne, nous le voyons, vit une crise d'identité Et c'est à la poésie de replacer l'homme au cœur de l'univers, de lui redonner un rôle. Et vous savez quel a été le rôle de la poésie le long de la Méditerranée. Partout, il y a d'immenses poètes arabes, oubliés, on ne connaît même pas les noms, mais ça n'a pas d'importance. Si vous lisez la poésie arabe d'il y a 15 siècles, et vous ne savez pas que ça a été écrit il y a 15 siècles, ça a été écrit aujourd'hui. C'est tellement visionnaire et prophétique. Le poète de demain devra donc être le point de repère de l'autre. Parce que la poésie, justement, c'est l'acte de dialogue avec l'autre. Non seulement cela, la poésie de nos jours, c'est une bataille que je conduis, a de nos jours une immense responsabilité. Et les gens commencent à arriver, moi, la poésie a une responsabilité. C'est ailleurs la responsabilité. Non, parce que comme nous vivons une époque de science totale, où nous vivons avec et dans la science, ce que nous avons dans la poche, là, c'est le produit le plus scientifique avancé, à tel point que je l'ai acheté hier, il n'est plus bon, il faut acheter un autre, et ça avance, 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 pour arriver où ? Pourquoi la poésie a une grande responsabilité ? Parce que la science la plus scientifique et la plus avancée qui sera, parce qu'elle est là, dans nos mains, c'est sûr, me dira le comment des choses, comment est organisé le monde. La Bruyère disait comment le corps humain est fait, il disait que le corps humain est une sorte d'horloge faite de 1000 pièces, chaque pièce a son rôle, mais si on enlève une seule pièce, bon, le corps meurt, c'est fini. La poésie, par contre, me dit le pourquoi des choses, me dit la raison secrète, le mystère. Moi-même, dans mes secrets les plus secrets, que moi-même je ne connais pas. Et quand j'écris, je les retrouve. C'est une fulguration, c'est un éclair qui illumine le poète et qui lui donne immédiatement cette entrée secrète en pleine lumière. Et la poésie, dans ses pourquoi qu'elle me donne, elle me fait voir les choses les plus simples qui existent au monde depuis toujours et qui sont l'essence de toute l'histoire. Petits exemples. Un fil d'herbe. Qui me parle d'un fil d'herbe et de son rôle? L'amour. Ben, l'amour, tout le monde pratique l'amour. Et l'amour, c'est à la poésie de le dire. Pas à l'ordinateur. Non, je l'aime. Ben, je m'en sers. Ou bien le ciel, ou bien la lune, ou bien le soleil. Bachelard parlait de immensité intime. Et cette immensité intime ne peut me venir que de la poésie. Et donc la poésie a un rôle énorme dans le dialogue avec l'autre. Je ne vais pas parler avec l'autre, avec les bombes produites par la science. Parce que la science, hélas, aussi ce rôle. Alors d'où cet intérêt général des universités, des chercheurs, des hommes politiques, vers aussi la poésie, vers une question qui avait été mise de côté et qui, par contre, dans le cours de l'histoire, a eu un rôle fondamental de formation de non seulement de l'histoire, mais de ce qu'on appelle notre Occident, notre philosophie, mais pourquoi pas de l'Orient, ce qui fait que je me suis dit, mais comment ? Je suis Orient. Et malheureusement, les leçons ne sont pas bonnes, mais ce livre, Je suis Orient, a été chanté en entier et mis à musique par une amie chanteuse qui s'appelle Isabelle Saquet. Mais on va voir autre chose après. Alors, de cet acte poétique qui est un acte pour l'autre et vers l'autre, en poète, je me suis dit, bon, il faut que moi aussi, je m'occupe de l'autre comme poète engagé pour l'autre. Et voilà les différents livres que je viens de vous présenter. Pourquoi ? Parce que l'acte poétique, l'espace poétique, au mois de janvier paraîtra un livre de moi qui s'intitule « L'espace poétique, Sherman à Paris », dans une belle collection que j'ai dirigée là-bas qui s'appelle « Vertige de la langue ». Et il y a des chapitres sur l'autre, sur la migration, comme des moments de l'espace poétique. Parce que l'espace poétique, c'est quoi ? Ben, c'est mille choses, donc on n'a pas le temps de lire. Vous verrez mon livre. Et donc, Bonnefoy, par exemple, le grand Yves Bonnefoy, vous savez, c'était un ami, grand ami. J'ai fait même un livre sur lui. Non, deux livres, pas un seul. Il parle de vœux d'hospitalité, d'une visée ontologique et humaniste. Il dit « écrire poétiquement, selon moi, c'est parler, tant soit peu, la langue de l'autre, et non pour s'y arrêter, pour la préférer, mais pour déboucher sur, enfin, un peu de sens collectif, de sens de l'autre. » Alors, l'espace poétique conduit de l'un, de moi, à l'autre, par un acte de présence et de recherche de l'ailleurs, vers l'autre, dans la lutte contre l'indifférence et la souffrance. Il faut se mettre à la place d'eux. Il faudrait consulter une belle anthologie qui a été réalisée par Mario Selvaggio, qui est mon élève à Cagliari, et une autre de mes élèves qui s'appelle Marcella Liopi, intitulée « Voix poétique vers à la rencontre de l'autre », paru chez Hermann à Paris. Mais je cite un grand français que j'adore, Dominique de Villepin, vous savez qui c'est. Il a été le premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Tout le monde se souvient de son célèbre discours à l'ONU contre la guerre, discours qui reste dans les annales de l'histoire pour moi. Et je lui ai dit, parce que je le connais très bien, c'était un ami. Eh bien, il écrit. Vous savez qu'il est, il s'intéresse beaucoup à la poésie. Il a écrit un livre très beau, paru chez Gallimard, « Voleurs de feu ». Les voleurs de feu, c'est nous les poètes. Cette révélation du souci de l'autre, comme un jeu en puissance, marque l'une des ruptures de la poésie moderne. Ici, le verbe reprend son élan vers un but nouveau. Rimbaud, l'un des premiers, s'arrache à l'étau de plomb qui le presse pour se libérer de la tradition romantique. Et sa solitude, confrontée à l'espérance de l'amour fondée sur de fragiles pontons de bois, il la nomme charité. On retrouve le Vieux Testament et le Nouveau Testament. Donc la poésie se fait charité, comme par exemple justement chez Rimbaud. Et à lire les œuvres de qui ? Senghor. Toute la poésie de Senghor, c'est de la charité, c'est un acte de charité. Glissant, tu viens de citer, Pablo Neruda, Saint-Jean Perse. Donc toujours cette tentative de façonner le visage de l'homme, ce qui nous confirme que la poésie, la véritable bien sûr, ne peut jamais être du verbiage, des mots accumulés, des montagnes de mots, mais plutôt des projets de dialogue avec l'autre, d'où mes trois livres que je viens de citer. Encore Glissant qui écrit « On rêve de ce qui est ». Et ce qui est, c'est l'être qui demande, qui fait des utopies, qui médite, qui fait l'amour, travaille, cherche la trace de son passage par ce monde. Et qui demande quoi ? Qui ne demande qu'un peu de pain. Quand on voit tous ces migrants qui arrivent, des milliers et des millions désormais, ils demandent quoi ? Ce ne sont pas des touristes. On les traite comme des touristes. Non, c'est des gens qui demandent du travail, du pain, des rêves, de l'amour, et c'est tout. D'où cette chanson, si on peut la donner. Moi-même, j'ai toujours aimé la musique. Moi-même, j'ai joué de la trompette en si bémol pendant 30 ans. Puis des histoires de dents, de bouche m'ont fait abandonner la trompette. Mais je joue l'accordéon depuis l'âge de 10 ans. Alors, je n'ai pas le temps, parce que quand on est prof, on n'a jamais le temps. Mais de temps à autre, je quitte tout. Je m'enferme dans ma pièce et je joue de l'accordéon. Alors là, c'est ma chanson de l'autre. Vous voyez, on ne l'avait pas dit, mais tout était programmé. Dont le texte est à moi. Et en ce cas, elle est chantée par Éric Guiton.
Ma voix vient de très loin. Ma voix a les signes du désert. Ma voix a traversé la mer. Ma voix est rouge d'amour. Ma peau est belle comme la tienne. Mon corps a des feuilles de rose. Je viens du carrefour du monde. Je caresse l'hôte comme mon frère. J'aime la poésie et la substance de l'air. J'écoute le vent des arbres. Je vis du feu de la nuit. Je porte le cachet du cœur. J'ai une offrande d'amour. Dans ma besace de lait, je garde la lumière des fruits. Je connais pleurs et rires sur les chemins de la terre. Je connais les mots de la prière. Je respire le souffle du ciel. Je chevauche le sol de l'oiseau. Je connais le goût du sang. Je ne sais pas, jamais, j'ai la saveur des morts. Je te demande juste du pain et de l'eau cristalline de la terre. Si c'est possible, un peu de vin. Comme toi, j'habite ce monde. Je suis l'étranger du seuil que nous franchirons ensemble. Je compte tes errances et les miennes. Je dis tes histoires et les miennes. Je connais tes fables et les miennes. Nous partageons songes et paroles. Nous sommes des jardiniers de l'amour. Je t'en prie, ne me dis pas ton pain. Ma voix vient de très loin. Ma voix a les signes du désert. Ma voix a traversé la mer. Ma voix est rouge d'amour.
Vous avez eu une idée, l'enregistrement n'est pas très bon, de ce texte qui est très fort. Parce que j'avais suivi les paroles et je l'ai écrit il y a 10 ans. Donc, quand cette vague actuelle n'existait pas encore. Mais, pour vous prouver que la poésie est vraiment un acte très fort d'engagement pour l'autre, que c'est vraiment un don au monde. En pensant aussi un peu à mon ami Tahar Ben Jelloun, qui écrit « Ce monde est un marécage, c'est l'homme qui l'a ainsi fait ». Dans un des livres que je viens de citer, j'écris, ce matin, la mer est calme. Les trains sont vides. Les chevaux n'ont pas de cavaliers. On est tous morts. La tempête a été aimable. Elle a ouvert ses dents pour accueillir tout le monde. Où ? On dit au fond de la mer. Ou dans un coffre de camion. ne savais pas encore qu'il y avait ces camions qui étaient arrivés il y a 10 jours, avec 36 morts en Hongrie, ou sous un train de guerre. On sent la moisissure des corps, les ongles arrachés, pas de linceul, morts habillés ou nus. Je marche en silence, comme un cheval blessé, sur la route entre ciel et terre. Je me vengerai de cette méchanceté. Je ferai appel à Dieu. Il m'écoutera. Et un deuxième poème, seulement pour avoir un essai, bien sûr, il faut lire les livres. J'ai apporté quelques exemplaires, si quelqu'un est intéressé. Sable de frères humains, en route, depuis le centre, d'une terre sans nuages, malheur écrit dans le ciel, pureté du désir impur, on pisse, on scie, on crache, excréments de désir, chapelet de voyage. On marche depuis 2 ans, l'horizon s'éloigne le matin, mes lèvres balbutient la rage, heure de l'autre qui vient, mon frère, mon compagnon. Qui t'a poussé à l'envers? Chasse, mort et angoisse, viens dans mes bras d'accueil, que nous franchirons ensemble. Donc, vous avez, disons, une petite idée, une idée de cette poésie, qui est d'un côté apparemment très simple, disons très mélancolique aussi, très sentimental en effet. C'est tout à fait le contraire, c'est vraiment, de ma part, un grand acte d'altérité. Le lien avec l'autre a quelque chose de transcendant. Levinas le souligne bien. Question d'immanence et de rapport avec l'autre homme. On va au-delà du dialogue lui-même. Le sentiment de fraternité prend sa valeur totale. Levinas rappelle que Dieu affirme dans Psaume 51:17 « Ouvre mes lèvres ». Dans le visage de l'autre homme, le secret de sa sémantique. Donc la proximité avec l'autre est alors un acte de paix. Et je fais appel à une autre forme d'humanité et d'humanisme, celle du voyage de l'homme vers l'autre. Alors, si on pouvait faire quelque chose, là, voyons, si on arrive. Hein. Oh là, c'est l'autre, mon frère, chanté et récité par Isabelle Sacquet, dans ce livre, qui est illustré, ça c'est important pour moi, par des collages d'un autre, d'un exilé en France, qui s'appelle Patrick Navahi, iranien, arrivé à l'époque de Khomeini, et avec qui je m'entends très bien, vous voyez, c'est des tableaux poèmes, je les appelle comme ça parce que c'est moi qui écris sur le tableau, et le peintre, après, travaille sur mon écriture. Voilà, là, vous lisez, le monde n'est pas fait des justiciers. Mais hélas, nous voyons que des justiciers. Bon, si on va un peu en avant, voyons.
Face au soleil qui dort.
C'est bien.
On est où? Dans un train, un bateau, un lieu inconnu.
Vous comprenez rien?
Les rêves ne meurent jamais. C'est la force de l'autre, de tous les autres en ce monde. On éparpille des projets, 1000 projets pour vivre. Des cendres naîtra la terre noire pour les chênes et les peupliers. La rouge pour les vignes, l'ocre pour le blé. La passion ne mourra pas. La passion, c'est moi, c'est celle de l'autre, c'est celle de la lumière. Après les cicatrices profondes incises dans la peau de toutes les couleurs, les chagrins,
Bon, mais c'est pour avoir une idée du travail que l'on fait, qui est un travail important, parce que si les artistes dialoguent entre eux, les peintres, les musiciens, les chanteurs, les poètes, nous tous, en faveur de l'autre, peut-être que, disons, le monde pourrait un peu changer, ne pas avoir les tragédies que l'on vit tous les jours, qui sont des tragédies dramatiques. Je suis dans ma conclusion, comme ça vous pouvez la suivre un peu. Et vous connaissez tous Umberto Eco, notre grand Umberto Eco, qui nous a quittés l'année dernière, qui, en prévoyant une Europe totalement différente dans son temps, observe. Le métissage est là. Soyons prêts à vivre avec, à l'interroger, à le maîtriser peut-être, parce que le ci-devant restera toujours à marge de l'histoire. Donc il avait tout prévu dans son livre « Migration et errance ». C'est un livre dont on ne parle pas, mais qui est très important pour les thèses que l'on veut démontrer dans ce colloque. D'après Lévi-Strauss, il y a deux cultures, la progressive et l'inerte. La première avance, la deuxième non. C'est pourquoi il observe la culture qui est confrontée à la migration, à la migrance, est toujours une culture qui bouge. C'est ainsi qu'elle avance, car elle accueille les inventions, les us et les coutumes, les particularités. L'autre, au contraire, l'autre culture, se crispe, s'immobilise sur ses préjugés barbares. Car, dit-il, le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie. On est au fond toujours des barbares. On est tolérant si on a besoin de l'autre. On est intolérant si on se croit inattaquable et supérieur. Nous sommes tolérants, dit Gisbert, quand la croissance est là. On est bien, donc on peut être, pourquoi pas, tolérant. Mais le monde suit toujours son chemin, suivons-le, la parole ancestrale à la bouche. Nous nous apercevrons que l'amour triomphe surtout. En premier lieu, l'amour de l'autre. C'est que l'autre est moi-même, mon essence, mon âme. Je peux ne pas la respecter à tel moment, mais je reviens constamment sur le chemin de la vérité. C'est le chemin de l'homme. C'est mon chemin. Je serai toujours à côté de l'autre, mon frère, moi. Je suis rien. Moi aussi. Je l'ai écrit et je les réaffirme. La reconnaissance de la différence mène à l'amour. L'écart est une ressource. François Julien observe. Car nous nous trompons sur ce fait. Il faut de l'autre, donc à la fois de l'écart et de l'entre, pour promouvoir du commun. Car le commun n'est pas le semblable, il n'est pas le répétitif et l'uniforme, mais bien leur contraire. J'aime ces propos de peintres qui saisissent au vol d'un trait ce que la philosophie aura ensuite à méditer. Regardez Chagall, les animaux de Chagall qui s'envolent par Paris, par son village de Witzbeck. Ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'il veut vraiment dire. Eh bien, il fait l'hymne de l'envol, de la migration, des peuples. On oublie qu'il était juif et que son peuple était allé en Russie. De Russie, il est passé à Paris dans les années 10 du siècle dernier. Julien précise à juste raison que la notion d'autre est menacée par une sacralisation excessive d'un côté et par une assimilation qui standardise. Parce qu'on parle beaucoup de, d'assimilation, il faut intégrer, intégrer. Oui, l'intégration, c'est le respect de l'altérité. L'écart revient alors avec sa force pour une opérativité autre qui garde l'identité dans le dialogue. Seule route possible, promouvoir l'humain sur le chemin de l'autre qui est aussi le mien. Et en conclusion, je veux rendre hommage à Anne Scheider et à son père Pierre Scheider, qui, comme je viens de le dire, était immense professeur de latin et de grec. Et quand on est professeur de latin et de grec, on est déjà pour l'autre. Parce que on pense à quoi? On pense à cette Méditerranée qui a été le symbole de la migration. La Méditerranée, la grande civilisation de Rome, ben, naît de la migration de la Méditerranée. Quand à l'époque d'Auguste, Rome faisait 1 million d'habitants, 1 million, vous y pensez, à l'époque, c'était énorme, vaste, presque comme le Latium. Et on pensait que c'était les Latins, les Romains. Pas du tout. Il y avait peut-être 20 000, 30 000 Romains. Le reste, c'est tout le monde de tout l'Empire romain qui venait de partout, d'Orient, du Sud, du Nord, de partout, et qui s'intégrait parfaitement. Alors Pierre Schneider l'a parfaitement compris dans son action quotidienne de professeur, dans ses réflexions, dans son magistrat continuel de recherche et d'actes quotidiens pour ces langues soi-disant mortes, mais qui ne sont pas mortes, parce que maintenant je parle latin. Bon, c'était le latin de 2000 ans après, mais c'est une sorte de latin. Le français, jusqu'à preuve contraire, est une langue néo-latine, et tout le monde oublie pourquoi ces langues néo-latines se sont gardées. C'est le rôle immense de l'Église. L'Église a joué un rôle capital dans les petits villages, partout, dans les campagnes, parce qu'elle a gardé le latin. Bon, un latin compliqué, que le peuple n'arrivait pas à maîtriser. Je me souviens, quand j'étais petit, je riais toujours, je commençais à faire du latin, et dans mon petit village, où tout le monde parlait un petit dialecte, un peu napolitain du sud de l'Italie, et à un moment donné, s'il y avait une cérémonie funèbre, le prêtre disait en latin « Suscipiat in pace », c'est-à-dire que toi, le mort, vis dans la paix éternelle, etc. Le peuple répondait « Scat in pace », c'est-à-dire « éclate dans la paix ». Donc, vous imaginez, il n'avait rien compris. Mais ce qui est fondamental, c'est que ce latin a formé nos pays. Oui, j'ai fini. À former nos pays, je suis dans les 30 minutes. Et donc, il faut revenir à cette leçon de Pierre Schneider. Donc, je vous remercie de votre attention. J'espère avoir donné le sens de l'autre.